Bonjour à tous. Alors, cette période difficile où il y a un certain isolement social nous permet quand même de continuer avec nos études dans le prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on regarde ensemble la première partie du chapitre 56 du prophète Ésaïe. Pour mieux situer ce chapitre, on peut dire que c'est le premier chapitre de la troisième partie du livre. Donc, je résume. Les 39 premiers chapitres concernent Ésaïe comme personnage public, conseiller même du roi Ézéchias. Et à la fin de cette section, les derniers chapitres concernent l'invasion et la défaite du roi assyrien Sennachérib, environ 700 ans avant Jésus-Christ. On a calculé d'ailleurs que Ésaïe avait environ 70 ans à ce moment-là, parce que cela faisait environ 40 ans qu'il prophétisait déjà depuis son appel en 740, selon Ésaïe chapitre 6 verset 1, l'année de la mort du roi Ozias. Puis nous avons vu que à partir du chapitre 40, il y a une toute nouvelle situation qui se met en place. Maintenant, en dehors des considérations de cet âge d'Ésaïe, hein, 70 ans, après la mort d'Ézéchias, son fils Manassé monte sur le trône et, on le sait, il est peut-être un des pires rois de Juda. Dans 2 Rois, chapitre 21, il y a un résumé sur lui qui dit ceci. Donc, 2 Rois, chapitre 21, j'ai à partir du premier verset. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephtsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal. Il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël, Achab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Puis au verset 6 même, cette idolâtrie le pousse très loin. Verset 6, il fit passer son fils par le feu en pratiquant la divination et l'occultisme. Il met en place des gens capables d'invoquer les esprits et les spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Une tradition d'ailleurs raconte que Ésaïe est mort en martyr pendant son règne. Scié en deux, il est possible que Hébreux chapitre 11, 37 fasse allusion à cela, mais cela n'est pas rapporté directement dans la Bible. À ce moment-là, l'Assyrie occupait le royaume du Nord, donc Israël, mais Ésaïe voyait déjà non seulement la menace des Assyriens, mais la menace suivante, l'empire babylonien et un exil pour ce royaume du Sud, Juda et Benjamin. Suivi d'ailleurs d'un retour au pays permis par le roi Cyrus, donc le roi de l'empire suivant, l'empire perse, et qui est nommé dans Ésaïe chapitre 44 et le verset 28. J'ai dit à propos de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple, que tes fondations soient posées. Le nouveau rôle d'Ésaïe est donc non plus de conseiller le roi, mais de consoler le peuple. Et cette deuxième partie du livre commence justement avec ces mots. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et pour dire que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée. Des prophéties que les fidèles allaient chérir pendant les jours difficiles de l'exil, jusqu'au retour en Israël, comme nous l'avons vu lors des études bibliques du mercredi soir. Il y a donc un style très différent par rapport au chapitre 1 à 39. Et donc, après ces chapitres 40 jusqu'à 55, il y a les 11 derniers chapitres de ce livre à partir de ce chapitre 56 que nous allons regarder aujourd'hui. On est toujours dans la même ligne, c'est toujours Ésaïe, prophète âgé, qui console son peuple. Mais maintenant, il y a une perspective davantage encore tournée vers l'avenir. Non seulement le retour de l'exil, non seulement la reconstruction de du temple et des murailles de Jérusalem, mais l'attente d'un nouveau monde et la vie à vivre pendant cette attente. Certains spécialistes y voient des messages particulièrement adaptés à la période du retour de l'exil. Et effectivement, certains thèmes, et nous allons faire référence à cela tout à l'heure, certains thèmes de ces derniers chapitres des livres se retrouvent dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous venons les étudier le mercredi soir à l'étude biblique. Et certains thèmes d'Ésaïe 56 et les chapitres suivants, on les retrouve dans Esdras et Néhémie. Dans ce sens, c'était difficile le retour de l'exil, tout ne se passait pas parfaitement. Certes, ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit les murailles de la ville, mais on comprend que dans cette logique d'une perspective éloignée, l'attente d'un nouveau monde, que les problèmes en interne du peuple devaient être vécus à la lumière, non seulement de la restauration du pays, en quelque sorte, mais même de l'éternité. Et c'est pour cela que ces chapitres sont tellement parlants pour nous, en tant que chrétiens, qui vivons à l'ère de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, parce que nous aussi, nous vivons cette tension dans cette attente entre le maintenant et le pas encore. C'est toute la réalité du Nouveau Testament. Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore sauvés. Nous sommes déjà réconciliés, pardonnés, en relation avec Dieu, mais on attend toujours cette réalité future et éternelle dont il est question dans l'Apocalypse. Je cite par exemple la fin de ce livre de l'Apocalypse, le chapitre 21. Le verset 4, à ce moment-là, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Donc il s'agit d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, que Ésaïe va mentionner à plusieurs reprises dans ses derniers chapitres de son livre. Donc, si j'ai fait cette introduction, c'est pour mieux comprendre que ces chapitres ont vraiment des choses à nous dire à nous aujourd'hui, nous qui attendons l'éternité, et en particulier deux choses, la justice, la façon dont nous devons vivre, et c'est les versets 1 et 2 de ce chapitre, et puis l'accueil de tous ceux qui se tournent vers Dieu, les versets 3 à 8. Donc lisons ces 8 premiers versets du chapitre 56 d'Ésaïe. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver, et ma justice est prête à se révéler. Heureux l'homme qui adopte ce comportement, et le fils de l'homme qui y reste fermement attaché, qui respecte le sabbat au lieu de le violer, et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer, qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël, j'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc voilà, je vais revenir à ces deux parties. D'abord, la justice. Comment nous devons vivre en attendant l'éternité? Donc je rappelle que c'est à cause de l'injustice que le peuple a été exilé. Nous le voyons déjà dans Ésaïe chapitre 5 et le verset 7. Dieu avait espéré de la droiture et voici de la justice. De la justice et voici des cris d'accusation. Donc ils pratiquaient une religion sans comprendre le lien avec le comportement. Maintenant, Dieu les appelle, Dieu nous appelle désormais à démontrer la réalité de la relation avec Dieu par la façon de vivre en attendant le salut final. Comme le premier verset le dit, mon salut est sur le point d'arriver. Ma justice est prête à se révéler. Ce qui est étrange, mais on va essayer de décortiquer tout cela, ce qui peut être étrange pour nous, c'est que le verset 2 met tellement l'aspect sur la nécessité de respecter le sabbat, le Shabbat, au lieu de le violer. Alors, comment comprendre cela? D'abord, on va dire que cela est tout à fait logique pour ceux qui reviennent de l'exil. Ils cherchent à obéir à Dieu parce que cela fait partie des 10 commandements. C'est même un des signes de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et nous avons vu lors de nos études bibliques le mercredi soir à quelle vitesse le peuple se met à désobéir à Dieu en l'espace de quelques années. Par exemple, le tout dernier chapitre que nous avions lu la semaine dernière, Néhémie 13 et le verset 15 et 16, je les lis. À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler leurs raisins dans les pressoirs pendant le Shabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du Shabbat. Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y a aussi des Tyriens, hein, qui viennent donc de la ville de Tyr et de Sidon, située sur la côte méditerranéenne. Il y avait aussi des Tyriens installés là qui apportaient du poisson, ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Juifs, et ce, à Jérusalem, le jour du sabbat. Alors, pourquoi le Shabbat? Quelle est la logique dans l'Ancien Testament? On en trouve 3 raisons. D'abord, dans Exode chapitre 20, verset 11, donc la première fois où on a les 10 commandements, il est écrit que la raison pour laquelle ils doivent respecter le septième jour, c'est que Dieu a créé le monde en 6 jours, comprendre ça de façon poétique, et il s'est reposé le septième jour. Et nous allons donc suivre l'exemple de Dieu. La deuxième raison est donnée dans Deutéronome, hein, donc Deutéronome qui veut dire deuxième fois où on annonce la loi, la deuxième fois où on trouve les 10 commandements. Dans Deutéronome chapitre 5 et le verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. C'est pour donc se souvenir qu'ils étaient esclaves et que ce n'est pas le travail qui fait tout. Il faut respecter le jour du repos pour le consacrer à Dieu. Et c'est justement là la troisième raison, parce que dans les deux cas, il s'agit de mettre à part ce jour. Je cite, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint, donc un jour qui est consacré à Dieu, un jour de culte. Donc les 2 raisons, c'est le repos, d'une part, nécessaire pour nous en tant qu'être humain, et deuxièmement, un jour consacré au Seigneur. Au fond, ce commandement visait à empêcher l'Israélite de se rendre esclave du travail. Le travail ne doit pas devenir sa raison d'être. Cela, il me semble, est assez pertinent pour nous, même aujourd'hui. Au contraire, l'Israélite devait faire confiance à Dieu qui donnait le nécessaire pour vivre sans travailler 7 jours sur 7. Alors, quand on arrive dans le Nouveau Testament, Que faut-il en penser pour nous aujourd'hui? Nous vivons encore cette tension en attendant l'éternité, nous sommes dans ce monde. Quelle est la pertinence du Shabbat et la loi sur le Shabbat? Plusieurs choses. D'abord, on a souvent fait remarquer que dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus n'a pas poussé plus loin ce commandement, à la différence d'autres commandements. Par exemple, il a dit que insulter quelqu'un revenait à le tuer. Donc il a poussé le commandement ne tuez pas jusqu'aux insultes. De même pour le commandement qui disait qu'il ne fallait pas commettre d'adultère, Jésus a dit même celui qui regarde une femme qui pense à l'adultère est coupable. Donc Jésus ne pousse pas plus loin ce commandement. Au contraire, il a souvent guéri des personnes le jour du sabbat, ce qui a beaucoup choqué les responsables religieux juifs. Et même, il a défendu ses disciples qui arrachaient des épis. Ça, c'est dans Marc chapitre 2. Il arrachait des épis pour les manger en traversant un champ le jour du sabbat. Les pharisiens, les religieux disaient « Ah, ils travaillent !» Ils arrachent des épis pour les manger le jour du sabbat. Et Jésus dit « Non, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Ce qui fait qu'il faut surtout éviter le genre de légalisme des ultra-orthodoxes juifs et profiter de ce jour simplement pour se reposer et pour se remettre en présence de Dieu en lui exprimant à la fois notre adoration, donc c'est un jour mis à part, et aussi notre confiance. Même si on ne travaille pas ce jour-là, Dieu va veiller sur nous et fournir l'essentiel pour vivre. Mais j'ajouterai un pas supplémentaire. Beaucoup d'éléments dans l'Ancien Testament ont été donnés comme, en quelque sorte, symbole de la réalité éternelle. Il y avait des sacrificateurs qui offraient des sacrifices, mais c'est Jésus qui est perçu comme un sacrificateur qui se donne en sacrifice. Et justement, les sacrifices, c'était Jésus aussi qui se sacrifiait sur la croix. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste indique Jésus à ses disciples et dit « Voilà, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et dans ce sens-là, on peut voir le Shabbat également comme un aspect cultuel qui véhicule un message spirituel propre à la Nouvelle Alliance. Et cela est clair quand nous lisons par exemple dans Hébreux chapitre 4, les versets 9 et 10. Je les lis. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Donc son activité dans ce sens-là, c'est son activité pour gagner le salut. Ce qui est très clair dans Éphésiens chapitre 2, chapitre qui est bien connu, le chapitre 2 verset 8 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la moyenne de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Donc ce n'est pas par nos œuvres, notre travail, notre obéissance à Dieu que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Et le Shabbat est symbole de cela. De ce repos. Voilà donc les versets 1 à 2, la justice que Dieu demande de nous. Maintenant, les versets 3 à 8, il s'agit d'un texte sur l'étranger, l'eunuque. Et donc, les deux, en quelque sorte, étaient un peu exclus du culte en Israël, l'étranger, parce que, à moins d'accepter le Dieu d'Israël comme leur Dieu et d'être en quelque sorte comme un prosélyte, comme quelqu'un qui croyait en Dieu sans être juif, et l'eunuque également parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple de Dieu à cause de sa déformation physique. Là encore, on dit que s'il respecte le sabbat, pour l'étranger, donc peut penser au salut par la grâce, Ils vont faire partie du peuple de Dieu. Je vais les amener sur la montagne sainte. Ils vont se réjouir dans la maison de prière de Dieu. Et pour les eunuques également, je leur donnerai dans mon temple, à l'intérieur de mes murailles, verset 5, une place qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtrait jamais. Donc, la conclusion de cette deuxième partie, au verset 8, c'est que Dieu va ajouter, et dit, j'en rassemblerai d'autres en les ajoutant au peuple, aux siens déjà rassemblés. Dieu ajoute les eunuques, il ajoute les étrangers, on peut dire en quelque sorte que la nouvelle alliance est ouverte à tous. Et dans cette nouvelle alliance, on voit l'accomplissement extraordinaire de cela. Un petit exemple est intéressant. C'est que dans Actes chapitre 8, un des premiers étrangers qui s'approche de Dieu, c'est un eunuque éthiopien. Donc là, on a les deux. On a un étranger, un éthiopien, qui est eunuque. Et l'évangéliste Philippe s'approche de lui alors qu'il était en train de faire quoi? De lire le prophète Ésaïe. Ça, c'est remarquable. Donc, la nouvelle alliance est ouverte à tous et nous accueillons tous ceux que le Seigneur accueille, quelle que soit leur origine. Et je pense que pour chacun de nous, à un moment où la mort rôde un petit peu, il y a cette crainte du virus, il est de plus en plus nécessaire de s'accrocher à cette réalité, même si le pire aux yeux du monde nous arrive, c'est pour que l'on soit auprès du Seigneur. Et là, l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, a un verset très très intéressant, parce que en parlant du Seigneur, Jésus, il dit, « Tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. » C'est un rassemblement extraordinaire. Déjà, notre Église regroupe des personnes issues de cultures différentes. Mais notre espérance, c'est que tous ceux qui sont des rachetés, graciés, sauvés par le sang de Jésus, nous serons ensemble pour l'éternité. Et en ces temps difficiles d'épidémie, ne perdons jamais de vue que nous sommes de toute façon seulement voyageurs sur la terre en vue d'une destinée éternelle. Et cette prophétie d'Ésaïe, qui s'accomplit pleinement avec la venue de Jésus, nous le rappelle très très clairement. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et que nous puissions tous nous réjouir de cette espérance d'un bonheur éternel auprès de notre Dieu. Amen.